Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
La Fondation Prince Louis de Polignac remet chaque année 5 prix à de jeunes chercheurs sur proposition des 5 académies de l'Institut de France. L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. Elle décerne également un prix proposé par son conseil d'administration. Cette année, l'art du vitrail, la restauration du temple d'Angkor, l'exploitation scientifique et philosophique des archives d'Henri Poincaré, l'histoire de la constitution des frontières de la Tunisie, le talent du romancier et essayiste Dominique Noguez et enfin la lutte contre le cancer sans recours au modèle animal sont les thèmes récompensés par la Fondation. Canal Académie vous propose d'entendre l'enregistrement de la remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac qui s'est déroulée le vendredi 10 novembre 2006 dans les salons de l'hôtel de Crillon. Ont pris alors successivement la parole Irène Dorel, présidente de la Fondation, pour accueillir les visiteurs et les lauréats, Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la présentation du lauréat des sciences morales et politiques décerné cette année à Mohamed Larbiawat. Vous entendrez ensuite Arnaud Dautrive, le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, pour la présentation du lauréat du prix artistique décerné cette année à Didier Randeau, puis Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, pour la présentation du lauréat du prix scientifique décerné cette année à Gérard Heisman. Ensuite, René de Holbaldia, de l'Académie française, a présenté le lauréat du prix littéraire décerné à Dominique Noguez, puis Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, a présenté le lauréat du Grand Prix de la Fondation cette année, décerné à l'archéologue Pascal Royer. Irène Dorel, fondatrice et présidente de la Fondation Prince Louis de Polignac, a présenté la lauréate du prix du conseil d'administration de la Fondation, décerné cette année à l'association Antidote Europe, créée par le professeur Reiss. Pascal Royer, lauréat du Grand Prix 2006, a fait ses remerciements et Son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco, en hommage au 10e anniversaire de la disparition du prince Louis de Polignac, a fait un discours. Retrouvons de ce pas Irène Dorel, présidente de la Fondation, qui ouvre la cérémonie.
Monseigneur, Altesse, Monsieur le Grand Chancelier, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les secrétaires perpétuels et présidents des académies, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut, Mesdames et Messieurs, chers amis, quelle joie renouvelée de vous accueillir, toujours aussi nombreux, pour la traditionnelle remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac, en ce 10 novembre, jour anniversaire de la naissance de notre cher fondateur, et en ce lieu où naquit son père, le prince Henri, alors résidence parisienne de sa famille maternelle, les Crillon. Que tous les membres du prestigieux Institut de France, Parlement du monde savant, et tous ceux qui œuvrent afin de perpétuer le souvenir du prince Louis, au travers des belles actions culturelles récompensées par sa fondation, reçoivent l'expression de notre sincère gratitude. Elle s'adresse tout particulièrement à messieurs les secrétaires perpétuels, qui nous raviront encore dans quelques instants par leur grande éloquence et leur immense savoir, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de la fondation, Monsieur le Premier ministre Pierre Messmer, notre président d'honneur, Son Altesse Royale le prince Laurent de Belgique, Monsieur le ministre Maurice Drillon, notre cher révérend père Gérard de Polignac, aumônier de la Fondation, Monsieur le préfet Aurousseau et Monsieur le directeur de Saint-Chéron, représentant respectivement Messieurs les ministres de l'Intérieur et de la Culture, Monsieur le président Pierre Cardin, et notre fidèle trésorier, M. Jean Vachereau, sans oublier les services administratifs de l'Institut de France, placés sous l'autorité de son directeur, M. Éric Peuchot, et Mme Marie-France Valette-Vialard, ainsi que les services financiers dirigés par M. Loïc Rousseau. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Grand Chancelier, cher Président d'honneur, bien qu'ayant à présent accédé à l'honorariat de la chancellerie de l'Institut de France, vous m'avez dit, et je vous cite, « Aussi longtemps que je vivrai, vous pourrez compter sur moi. » Et vous présidez toujours aux destinées de la Fondation. Quel merveilleux soutien, quelle force nous apporte votre présence. Soyez-en remerciés du fond du cœur. Très cher Prince Laurent, vos grandes obligations officielles et familiales ne vous éloignent cependant pas de nous. Recevez également toute notre gratitude pour avoir apporté à la Fondation le concours de la société Starwood Capital Group dans la réalisation de cette manifestation. Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, vous avez bien voulu accepter de rejoindre le comité d'honneur de la Fondation, manifestant ainsi l'intérêt bienveillant que vous portez à ces activités. Votre présence aujourd'hui en est la confirmation et nous en sommes très heureux. Monseigneur, votre présence est une joie toute particulière, mais aussi une grande émotion, car c'est un peu comme si le prince Louis lui-même était présent parmi nous, tant les liens qui l'unissaient à votre personne étaient profonds. Il disait souvent que votre Altesse était le fils qu'il aurait rêvé avoir, et il était toujours très fier de vos exploits et très sincèrement admiratif de votre personne. Il a aimé la principauté de Monaco comme sa seconde patrie. Et nous savons le souvenir impérissable qu'il y a laissé. Monseigneur, soyez assuré que tous les membres de la Fondation n'ont qu'un seul et même but, qui les unit dans le même enthousiasme, celui d'honorer la mémoire de cet être si merveilleux et attachant. Ceux qui l'ont connu se souviennent de sa bonté vraie, de sa spontanéité, de son humour irrésistible, de cet optimisme profond qui l'anima jusqu'au bout, de ce charme si particulier avec lequel il s'adressait à tous, grands ou petits, de son sourire qui illuminait son visage et creusait deux irrésistibles fossettes qui lui donnaient l'air d'un éternel adolescent. Voilà 10 ans qu'il nous a quittés. Mais ne doutez pas un instant, Monseigneur, de la fidélité de tous au souvenir de celui qui, et pardonnez ce jeu de mots un peu facile, de celui, dis-je donc, qui continuera, lustre après lustre, à nous éclairer. Je vous remercie de votre attention. Je donne maintenant la parole à M. Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques.
Madame la Présidente, Monseigneur, Altesse, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chancelier, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est avec un vrai plaisir qu'au nom de mes collègues, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir le travail de M. Mohamed Larbi Awat. Il est là, M. Awat. Merci. Comme vous voyez, M. Awat, ce sont des applaudissements spontanés. Ce n'est pas moi qui les ai suscités. Donc, de vous présenter le travail de M. Awat, que notre compagnie a décidé de proposer pour l'attribution d'une bourse de la Fondation Prince Louis de Polignac à l'initiative de M. Alain Plantet qui s'excuse de ne pouvoir être des vôtres ce soir. Cette bourse doit permettre la publication de la monumentale thèse d'État de M. Awat sur, je cite, « le problème frontalier de la Tunisie depuis l'époque ottomane jusqu'à nos jours ». Cette thèse a été soutenue à l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. C'est une œuvre d'une précision et d'une érudition remarquables qui a nécessité courage et obstination de la part de son auteur puisqu'il y aborde une question particulièrement délicate de l'histoire tunisienne. En effet, les frontières de la Tunisie ont subi à travers les vicissitudes politiques qu'a connues la région une évolution souvent douloureuse et parfois tragique. À l'origine, il s'agissait d'une frontière tribale qui délimitait les parcours de transhumance, le droit de pacage, les points d'eau, les axes caravaniers. Jusqu'à l'importation de la logique européenne de l'État-nation, il n'y avait pas de frontière rigide entre les pays arabes et la circulation des biens et des personnes ne connaissait pas d'autres entraves. De Bagdad à l'Andalousie, d'autres entraves que des entraves juridiques qui avaient elles-mêmes disparu. La fonction essentielle d'une frontière était à l'époque la protection de l'espace vital de la tribu. La frontière était davantage une zone frontière. Elle naquit progressivement une certaine linéarité, évoluant d'une situation floue, incertaine, conflictuelle, vers la démarcation, la délimitation et le bornage, c'est-à-dire vers la frontière ligne artificielle et conventionnelle. Partout, ce processus de définition des frontières de l'État moderne fut très long. Pour la Tunisie, son agencement a débuté dès l'époque ottomane, puis elle a été fortement consolidée et rectifiée sous le protectorat et finalement approuvée par l'indépendance. Monsieur Awad estime qu'au cours de cette histoire, la Tunisie a été lésée sur le plan territorial au profit de l'Algérie voisine. Mais, comme le dit le proverbe arabe, ce n'est pas un ennemi qui en a profité. L'Algérie en est consciente, ce qui explique que depuis son indépendance, cela mérite, je pense, d'être souligné, depuis son indépendance, elle a offert à la Tunisie de multiples compensations. C'est une expression que je tiens de vous. Ainsi, la Tunisie a-t-elle obtenu le respect régional et international, ainsi que le maintien de relations de bon voisinage et de coopération avec l'Algérie. Traités et conventions constituent un apport économique et une alliance stratégique considérable et sont des éléments essentiels de dissuasion pour dissiper le spectre de la guerre dans la région. La résolution du problème frontalier de la Tunisie, tel que l'expose M. Awad, pourrait servir de référence au monde arabe et musulman et d'exemple de règlement pacifique des litiges frontaliers. Par la diplomatie, il a été possible de dépasser l'antagonisme et de réduire les tensions afin de construire un compromis. La stabilité d'une frontière ne saurait, en effet, être assurée à long terme, ni par la force, ni par la violence. Seule la coexistence pacifique peut garantir sa pérennité. On voit, au-delà de sa seule qualité documentaire, ce travail est porteur d'un véritable message de paix entre les nations. C'est aussi cet espoir que M. Awad fait également vivre dans les associations francophones dont il est un membre actif que nous saluons ensemble aujourd'hui.
Écoutons maintenant le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Arnaud Dautrive, pour la présentation du lauréat du prix artistique décerné à l'artiste Didier Rando.
Monsieur Didier Rando, je suis très heureux de vous remettre aujourd'hui la bourse Marcel Landowski de la Fondation Prince Louis de Polignac, attribuée cette année sur proposition de la section de gravure de l'Académie des Beaux-Arts. À celui qui considère votre parcours s'impose comme une évidence l'intensité de votre monde intérieur. Mais contrairement à certains artistes plus sédentaires, cette inspiration se nourrit visiblement chez vous d'une passion pour le monde et la diversité de ses formes. Dessinateur, dès l'âge de 5 ans, puis graveur, artiste peintre, créateur de collections de mode, responsable de bureaux de création et de communication, professeur d'art plastique, décorateur de théâtre, commissaire général de 1994 à 2000 des 5 biennales internationales de la tapisserie et de l'art de la fibre de Beauvais, tout votre itinéraire parle de cet engagement dans la vie d'un monde dont vous captez d'un trait aussi sobre que juste le pouls, le frémissement. Cette passion du monde se lie également dans la multiplicité des pays que vous sillonnez depuis toujours. Après un grand tour italien, pendant vos études, vous effectuez un véritable tour du monde au cours duquel vous exposez à Abidjan, Beyrouth, Rabat, Taipei, les œuvres que vous inspire l'esprit et la lumière de tous ces lieux parcourus et contemplés. Pourtant, on ne peut s'empêcher de constater combien cette influence du monde est chez vous d'ordre spirituel, vous dont le trait demeure si dépouillé de toute forme de pittoresque et d'accessoires. Comment ne pas voir également cette aspiration spirituelle dans le mouvement qui vous porte vers l'art, tout en épure, du vitrail? En 2000, vous réalisez un ensemble de 17 vitraux pour l'église de Sillé-Tillard-sur-Oise, et vous créez, les années suivantes, des vitraux pour le couvent des Clarisses Immaculées Conception de Lectoure, village médiéval où vous résidez, situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'année dernière, vous réalisez encore 7 vitraux pour l'église de Bayargues, Montpellier. C'est ce même souffle intérieur qui vous porte à créer deux tapisseries sur le sujet du baptême du Christ tissé à Aubusson, ou encore à réaliser 21 dessins pour l'illustration de l'oratorio créé pour l'année du jubilé, La Voix écarlate, opéra de Sainte-Foy, écrit par Michel Serres et Bertrand Skiro. Tout est ressenti, tout est rendu présent. Tant l'arabesque est vraie, tant elle réussit à tout exprimer, a écrit au sujet de vos œuvres Bernard de Masclary. Ce prix est la reconnaissance d'un talent rare et inspiré. C'est une joie pour moi de vous le remettre aujourd'hui, cher monsieur Rando.
Retrouvons Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour la présentation du lauréat du prix scientifique décerné à Gérard Heisman, grand historien des sciences et des archives d'Henri Poincaré.
Monseigneur, Altesse, Monsieur le Grand Chancelier, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, mes chers collègues, Madame qui nous avait tous réunis aujourd'hui, une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Remettre un prix d'histoire des sciences n'est pas une affaire banale. Aujourd'hui, je remettrai un prix à Gérard Heisman, et il faut dire un mot de cette rareté. La France n'a pas choisi d'inscrire l'histoire des sciences dans les disciplines qui ont valeur de discipline de formation, ni dans les lycées, ni dans les universités. Ce sont en France des disciplines d'érudition. Ceci nous donne, pour ceux qui acceptent d'embrasser cette discipline, une grande admiration. Et c'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui, au nom de cette fondation et sur les incitations de Claude Debru, de remettre aujourd'hui cette signifiante récompense. Il faut savoir, par exemple, que l'Académie des sciences a dû attendre les 3 dernières années pour créer comme commission thématique une commission d'histoire des sciences et d'épistémologie. Il n'y en avait pas. Elle n'a pas été jusqu'à rajouter « et de philosophie », comme le feraient et l'ont fait la plupart des établissements scientifiques. Voyez-vous, l'histoire des sciences est très connotée d'éléments qui tendent à assimiler le savoir à un élément dans l'histoire. Tous les pays civilisés ont pourtant choisi cette voie. Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que les choses changent. Certes, il y avait de très brillants historiens des sciences et épistémologistes, mais ils travaillaient dans leur coin et personne ne les importunait. Et personne d'ailleurs ne lisait vraiment leurs ouvrages. Et puis est venue la biologie. La biologie, avec Darwin, a changé complètement cette affaire. Darwin a fait des propositions qui s'opposaient exactement à ce que des paléontologistes comme Cuvier avaient mis au point. Ces derniers avaient montré un monde qui va de crise en crise. Et Darwin montre que si l'influence de l'environnement qu'avait voulu Lamarck, cette influence a de grande importance, il y a quelques règles, et ces quelques règles ont été les règles darwiniennes. Alors là, la biologie s'est vraiment intéressée aux affaires. Mais la plus ancienne des sciences, et de très loin, ce sont les mathématiques. Et c'est aujourd'hui à un historien des mathématiques que le prix est remis. Et c'est un des spécialistes de l'un des génies mathématiques de l'humanité. Il s'agit d'Henri Poincaré. Henri Poincaré a eu des fulgurances qui sont encore loin d'être toutes démontrées, mais qui, année après année, décennie par décennie, le deviennent toutes. Et le mécanisme de la pensée d'Henri Poincaré, eh bien, le lauréat d'aujourd'hui, par une étude extrêmement précise des textes, par l'informatisation qu'il lui a fait, par la lecture de ses correspondances, a réinscrit Henri Poincaré dans le flux de ceux qui ont construit notre monde. Je n'aurai pas le courage, l'aptitude, ni le culot de vous dire tout ce qu'Henri Poincaré a fait qui paraissait complètement abscon et qui a changé notre vie quotidienne. Notre lauréat, aujourd'hui, est l'homme qui, après l'année de la célébration nationale de l'année dernière, que connaît bien notre confrère Leclan, après cette année-là, a été l'homme qui a été toujours, depuis qu'il produit, était comparé à Einstein. Et il y a toujours, lorsque ceci se produit en science, un agréable débat à avoir. Et il est des hommes qui ont su montrer que c'était des points de vue et des observateurs de l'esprit différents et qu'ensemble, ils ont contribuer à faire que le monde ait la compréhension dans son ensemble, qui est celle d'aujourd'hui. Henri Poincaré est l'un des génies de notre esprit, de l'esprit humain, et le lauréat d'aujourd'hui y a consacré une grande partie de sa vie.
professeur à l'université Henri Poincaré de Nancy. Il est donc au lieu même où le revigorement, la possibilité de réintroduire l'histoire des sciences parmi les disciplines formatrices de l'esprit des jeunes se fait, cet homme-là a porté avec discrétion un apport considérable à la connaissance scientifique française et mondiale. Je suis heureux aujourd'hui, au nom de la Fondation, de lui remettre ce souvenir qui lui est accordé.
Écoutons maintenant René de Obaldia de l'Académie française pour la présentation du lauréat du prix littéraire décerné cette année au romancier essayiste Dominique Noguez.
Madame Hélène Carrère-Dancos s'excuse auprès de vous de n'être point présente, mais des obligations impérieuses l'en ont empêchée. Elle m'a chargé de la remplacer pour les laudes qu'elle aurait été heureuse elle-même de dispenser à notre lauréat, M. Dominique Noguez. Tout de go, j'emprunte à mon confrère, M. Michel Déon, lequel vient d'écrire l'admiration qu'il porte à M. Dominique Noguez, au romancier, l'auteur de L'Amour Noir, qui a eu le prix Femina en 1997, des Montago, qui avait pris également le prix Roger Nimier, mais aussi au pénétrant essayiste, Les Trois Rimbauds, La généalogie des parapluies et autres textes. Il souligne aussi le caractère à la fois gourmand et si profondément passionné de la chose littéraire de Dominique Noguez qu'il en oublie souvent les nécessités de la vie terrestre. Pour ma part, cher Dominique Noguez, je noterai que vous avez obtenu le Grand Prix de l'Humour Noir pour « Ouverture des veines et autres distractions ». Et qui plus est, singularité profonde, vous êtes membre de l'Académie de la Carpette Anglaise. À tous ces titres, et à bien d'autres qui seraient trop longs ici d'énumérer, l'Académie française est particulièrement heureuse de vous remettre le prix littéraire de la Fondation Prince-Louis de Polignac.
Irène Dorel, cofondatrice et présidente de la Fondation Prince-Louis de Polignac, présente maintenant la lauréate du prix du conseil d'administration de la Fondation, décerné cette année 2006 à l'association Antidote Europe, créée par le professeur Reiss.
Le conseil d'administration a décidé de récompenser pour ses travaux l'association Antidote Europe. La juriste que je suis n'aura certes pas l'outrecuidance de parler de biologie cellulaire devant un aréopage d'éminents et illustres savants, et je pense en particulier à messieurs les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Je me dois simplement de rappeler que le but de la Fondation est d'encourager toutes les actions entreprises dans les domaines qui constituaient pour le prince Louis un centre d'intérêt, voire une priorité, et celle-ci en est bien une, tant notre fondateur était à la fois préoccupé par l'évolution de certaines maladies, telles les cancers ou les affections neurodégénératives, aussi bien que touché par la souffrance animale. Les activités de l'association Antidote Europe, sous la direction du professeur Claude Reiss, ancien directeur de recherche au CNRS, s'inscrivent dans le cadre du projet REACH, lancé en 2001 par la Commission européenne, afin de tester 30 000 produits chimiques utilisés notamment dans l'industrie et l'agriculture. Elle a développé, grâce à des puces à ADN, un test dans son programme de toxicologie scientifique consistant à introduire diverses substances chimiques sur des cultures de cellules humaines permettant d'en évaluer la toxicité de manière fiable, rapide et économique, et cela sans aucun recours au modèle animal, dont un nombre croissant de scientifiques reconnaît qu'il n'est pas totalement transposable à l'homme, puisqu'il est à présent établi que chaque espèce animale possède un patrimoine génétique unique qui ne peut s'apparier avec le patrimoine génétique d'une autre espèce. Ainsi, une telle approche, qui reçoit une adhésion grandissante dans la communauté scientifique, devrait-elle contribuer au courant actuel de recherche qui apporteront dans les prochaines années un immense progrès en matière de santé humaine, tout en épargnant des millions de vies animales à travers le monde. Le prince Louis avait la conviction que nous partageons entièrement qu'il est de la dignité de l'homme que son intelligence place au sommet de la pyramide du vivant et qui, justement grâce à cette intelligence, peut appréhender la souffrance des êtres qui nous entourent et dont la sensibilité, nous le savons parfaitement à présent, est très semblable à la nôtre, qu'il est donc de sa dignité et de sa grandeur de refuser d'apporter cette souffrance chaque fois que son génie inventif lui ouvre d'autres voies. Nous vous félicitons unanimement, monsieur le professeur Reiss, pour votre action, qui n'ira peut-être pas sans quelques oppositions de certains lobbies industriels, mais n'est-il pas le propre des précurseurs et des grands hommes qui ont permis à l'humanité de progresser dans la voie de la connaissance, d'avoir eu le courage d'aller à l'encontre de certaines idées reçues, voire même de certains égoïsmes, et nous ne doutons pas que vous trouverez un écho sans cesse grandissant chez nos contemporains qui, de plus en plus, refusent l'inutile souffrance des êtres vivants qui partagent notre planète. J'appelle le professeur Claude Reiss.
Retrouvons maintenant dans les salons de l'hôtel de Crillon Jean Leclan, le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la présentation du lauréat du Grand Prix 2006 de la Fondation, décerné cette année à Pascal Royère.
Vos Altesses, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Chancelier de l'Institut, Excellences, Mesdames, Messieurs. En fonction d'une tradition dont l'acte de naissance officiel remonte au 8 août 1997, 10 ans, date du décret portant création de la Fondation Prince Louis de Polignac, il échoit ainsi depuis 1998 à chacune des 5 compagnies constitutives de l'Institut de France d'attribuer par roulement le Grand Prix annuel Prince Louis de Polignac. Le Grand Prix Prince Louis de Polignac entend répondre à une double vocation. Couronner une œuvre, dans la plus large acception du terme, tout en promouvant l'esprit même qui a conduit à lui donner le jour, à la fois national et européen. Selon les vœux des cofondateurs de la Fondation, le relais Prince Louis de Polignac et Madame le juge Irène Dorel, présidente de son conseil d'administration, le Grand Prix, je cite, « récompensera un travail sur les arts, les sciences ou la spiritualité, promouvant la culture française et européenne. » N'est-ce pas précisément répondre à cette vocation que de proposer, comme lauréat 2006, un architecte et archéologue français qui se voue à redonner tout leur lustre aux splendeurs du passé cambodgien, et en particulier au site d'Angkor, une illustration du dialogue entre les cultures et de l'apport de la science occidentale au façonnement d'une identité culturelle, universelle. Mais avant de vous présenter le récipiendaire et de vous exposer brièvement les raisons qui ont conduit l'Académie d'inscription à proposer au conseil d'administration de la Fondation Prince Louis de Polignac d'accorder son grand prix à M. Pascal Royère, ce qui lui permettra de mener à bien son beau programme de restauration du bas-fond d'Angkor, veuillez me permettre de rappeler que l'année 2000, il y a 5 ans, avait vu couronner la collection de la carte archéologique de la Gaule, qui est une entreprise issue de la synergie entre le ministère de l'Éducation nationale et de la culture et naturellement notre Académie, qui fournit une multitude de chercheurs. En guise de reddition des comptes, comment ne pas évoquer, en quelques mots, l'impressionnant bilan de ce monument d'érudition et de science, moins de 20 années après son lancement, en 1988, 90% de notre territoire national est présentement couvert, avec la parution toute récente d'un 100e volume, un super ouvrage, très largement illustré, de quelques 900 pages, consacré à la ville d'Aix et au Val de Durance. Notre lauréat d'aujourd'hui, M. Paul Royère, est né en 1965 à Saint-Geniès-Bellevue. Il est architecte des PLG, docteur ès lettres et maître de conférences à l'École française d'Extrême-Orient, l'EFEO, dont le directeur, M. Franciscus Verhelen, correspondant de l'Académie d'inscriptions et belles-lettres, a tenu cet après-midi à être parmi nous. C'est au Proche-Orient, monsieur, que vous avez débuté votre carrière scientifique sur le site, que certains d'entre vous connaissent, de Doura Europos, en Syrie. Vous avez conduit, en 1993, votre premier programme de restauration, celui de la façade du palais dit du stratège, qui est un bâtiment majeur de cette ancienne cité, bien connue des archéologues. Se dénote dès alors un trait saillant de vos activités de terrain, qui se marie de manière constante, comme il est de bonne méthode, avec le travail du restaurateur, comme celui du fouilleur. Dès la fin de 1993, vous avez été recruté en tant que chercheur associé par l'EFEO, l'École française d'Extrême-Orient, et affecté à Siem Reap pour conduire, sous la direction de votre maître Jacques Dumarsais, un programme de maintenance des temples du petit circuit du parc archéologique d'Angkor. C'est ainsi que, après la consolidation du perron sud de la terrasse des éléphants, qui est au cœur même d'Angkor Thom, un chantier de Meurine achevé en 1975, vous réalisez l'étude complète d'un édifice situé au cœur du dispositif urbain d'Angkor Thom, un chantier d'Angkor Thom, le Klang Sud. Vous entreprenez la description architecturale désormais d'Angkor Wat. En 1995, vous avez confié la direction du programme de restauration du Bafouon. C'est une vaste entreprise conduite dans le cadre de la coopération française visant à poursuivre et achever l'anastylose d'un des plus grands monuments d'Angkor. Vous soutiendrez, en 2002, sous la direction de Bruno d'Agens, présent ici ce soir, une thèse de doctorat sur l'histoire architecturale de ce monument. Devenu membre de l'EFEO en 2001, vous poursuivez dès lors vos travaux de restauration et de recherche sur la base d'une confrontation quotidienne aux références architecturales et aux techniques de construction employées par les maîtres d'œuvre du Cambodge ancien. Vous êtes en particulier devenu le maître de ce qu'on appelle la typologie des temples montagnes khmères. Auteur de plusieurs ouvrages sur l'architecture khmère, en particulier « Une histoire de l'architecture du Cambodge du 8e au 13e siècle » paru à Leyde en 2001, en collaboration avec Dumarsais, d'articles aussi qui présentent les résultats de vos recherches dans le Bafouon. Vous n'êtes pas un inconnu de l'Académie des inscriptions, devant laquelle vous avez présenté, en juin 2005, une communication « Nouvelles données relatives à l'histoire architecturale du Bafouon ». Aussi, lorsque notre compagnie a réuni le vendredi 10 mars 2006 une commission chargée de proposer un lauréat pour le Grand Prix de Polignac, vous êtes apparu particulièrement digne de que soit couronné le travail difficile que vous menez depuis 10 années avec tant de ténacité et de passion. C'était à nos yeux user de ce Grand Prix, non seulement pour récompenser votre inlassable labeur, mais aussi en vue de contribuer et de rendre possible la réalisation de l'actuel programme de restitution de la façade est du Bafouon et des abords du temple, un projet remarquable soutenu par le ministère des Affaires étrangères et l'École française d'Extrême-Orient. En proposant d'attribuer le Grand Prix de Polignac à cette entreprise de coopération franco-cambodgienne sur un chantier archéologique extrêmement prestigieux dont la France assure d'ailleurs la responsabilité depuis plus d'un siècle, l'Académie souhaitait aussi souligner. Par-delà l'excellence française en matière de restauration archéologique, l'apport fondamental de nos études orientalistes pour une meilleure compréhension et pour la préservation d'un site phare classé par l'UNESCO au titre du patrimoine de l'humanité, suit encore. D'un autre côté, aider à la réalisation de ce projet, considéré comme exemplaire par les autorités ministérielles, répondait à un engagement moral de la France. L'apport du prince Louis de Polignac, du prix du prince Louis de Polignac, permettra l'engagement, jadis pris par notre pys, de veiller à l'anastylose du Bas-Fluon, qui avait été démontée à l'occasion des fouilles de 1909, conduites par Philippe Grolier et son architecte du Marsay, le père, mais qui, faute de moyens de financement, était restée depuis en l'état. En ces lieux, ici même, ce soir, ces lieux qui sont empreints d'une certaine sonalité, mais qui partagent aussi, d'une certaine façon, avec les monuments angkoriens, la magie de susciter une impression de bonheur, bien c'est avec une joie profonde que je vous remets la médaille et le diplôme de lauréat 2006 du Grand Prix Prince Louis de Polignac.
Retrouvons dans les salons de l'hôtel de Crillon son Altesse Sérénissime le prince Albert de Monaco pour un discours en hommage au 10e anniversaire de la disparition du prince Louis de Polignac. Il nous rappelle également les grands principes de la Fondation.
Altesse, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chancelier, Messieurs les secrétaires perpétuels, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, c'est avec une joie, une grande joie, que j'ai participé à la remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac, qui revêt cette année un caractère tout particulier. Comme vous l'avez rappelé, Madame, il y a en effet 10 ans déjà que cette personnalité d'exception disparaissait. Des liens forts, et vous les avez rappelés, nous unissaient, empreints d'une très grande affection. J'aimerais encore une fois honorer ici la mémoire d'un homme de passion, un homme de culture, un homme d'érudition, de distinction, mais aussi un homme de charme, d'humour, d'épicurisme et de générosité. Et l'écoute qu'il portait aux autres ont été, je crois, unanimement reconnues et saluées. Le prince Louis de Polignac faisait partie de ces hommes dont le souvenir accompagne pour toujours la vie de ceux qui les ont connus et aimés. Et je vous remercie très sincèrement, Madame, ainsi que tout votre conseil d'administration, de faire vivre avec tant de dévouement et de passion la mémoire de mon illustre parrain. En ce 10e anniversaire de sa disparition, vous avez voulu privilégier 2 domaines qui lui étaient si chers et dans lesquels sa curiosité était sans limite, la culture et la science. Les lauréats qui ont été récompensés représentent magnifiquement l'esprit souhaité par le prince Louis de Polignac. Et je voudrais les féliciter très vivement et très chaleureusement. Je voudrais en distinguer quelques-uns. Tout d'abord, le professeur Claude Reiss, fondateur de l'association Antidote, qui, entouré de chercheurs de premier plan, développe des méthodes pour faire progresser la recherche biomédicale. Monsieur Dominique Nogues, romancier et essayiste, philosophe et spécialiste en sciences humaines, qui nous fait découvrir, au travers de ses romans et de ses essais, personnalités des plus riches et des plus talentueuses. Monsieur Gerhard Heinzmann, professeur, chercheur au CNRS, qui avec une équipe de très haut niveau a su promouvoir et diffuser dans le domaine des mathématiques des travaux reconnus au plan international. Enfin, Monsieur Didier Redot, artiste aux expressions multiples, dont les grandes œuvres sont nourries d'une très grande créativité et d'une forte sensibilité. Et j'ai eu l'honneur de remettre, avec Monsieur Leclan, le prix proposé par l'Académie des inscriptions et belles lettres à Monsieur Pascal Royère, à qui nous avons rendu hommage. Et les travaux de M. Royère, qui nous ont été très très bien exposés, et son programme de restauration du temple Paphion d'Angkor, temple majeur d'un site, comme nous l'avons su, classé par l'UNESCO au titre du patrimoine de l'humanité. Ce projet, commencé il y a 10 ans maintenant, constitue un exceptionnel laboratoire de recherche sur les techniques de construction anciennes et leurs différentes phases d'évolution. Les travaux qui seront entrepris feront, je pense, date au plan scientifique et culturel. Ils permettront de présenter pour la première fois la richesse et la grandeur de cette architecture majeure du XIe siècle. Je crois, une fois encore, que cette cérémonie, rendue prestigieuse par le choix des lauréats, perpétue, je me répète, mais perpétue avec éclat, la mémoire d'un être dont la culture était indissociable de la vie. Je vous remercie.
Écoutons enfin, pour clore la cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac 2006, le lauréat du Grand Prix 2006, Pascal Royère, pour ses remerciements.
Monseigneur, Altesse, Messieurs les chanceliers, Messieurs les secrétaires perpétuels, Madame la Présidente, Excellence, Mesdames, Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui. En ce jour où l'École française d'Extrême-Orient reçoit un prix prestigieux pour son action entreprise sur le chantier du Bapouane Angkor. Il me revient ainsi de prendre la parole pour parler de l'histoire d'un monument au chevet duquel une institution et des hommes s'échinent depuis des décennies. Le temple du Bapouane est sans aucun doute le chantier le plus ancien de toutes les activités de conservation conduites jusqu'ici à Angkor. C'est en effet en 1908 que débutent les grands travaux de dégagement, avec en premier lieu le dégagement de la base de la pyramide et l'éradication de la végétation de ces 3 étages. Il faudra cependant attendre la fin des années 50 pour que, sous la conduite de Bernard-Philippe Grolier, la conservation d'Angkor et l'École française d'Extrême-Orient se dotent des moyens nécessaires pour l'accomplissement d'un projet de restauration ambitieux et, disons-le, à la mesure de la grandeur du temple. C'est ainsi que de 1960 à 1971, une grande partie des efforts de ces institutions se portera sur la réalisation de l'anastylose des 3 étages de la pyramide. Malheureusement, cette grande œuvre sera brutalement interrompue en 1971, alors que le pays ouvrait l'une des pages les plus noires et les plus sombres de son histoire. Il aura fallu attendre 24 longues années pour que, à l'aube des années 90, la paix revenue sur les terres cambodgiennes permette d'envisager la reprise de ce vaste chantier. Et c'est par un matin de février 1995, au cours d'une très belle cérémonie, que Sa Majesté le Roi Père Norodom Sihanouk a inauguré la reprise de nos travaux. La tâche était immense. Qu'on se souvienne des conditions, avec entre autres le pillage des archives du chantier, la transformation du dépôt lapidaire longtemps occupé par les troupes militaires, l'effondrement du quart nord-est de la pyramide, et surtout la disparition d'une partie des ouvriers et en fait du savoir technique propre et nécessaire à la réalisation d'un tel chantier. Pour certains, la tâche était sans doute inimaginable. Ainsi, non sans humour, je ne résiste pas à rappeler que les quelques 40 premières personnes qui ont été employées sur ce chantier dès 1995 étaient à peine visibles dans l'immensité du monument. Et de fait, les quelques visiteurs et touristes qui approchaient le Bapouane à cette époque-là se voyaient expliquer très sommairement par leur guide « Et voici le temple que les Français ont démonté ». Sans plus aucun autre commentaire, les accompagnateurs les conduisaient dans la foulée vers la terrasse des éléphants, la place royale et les autres grands monuments du cœur d'un Courtum. En fait, le bas-point n'existait presque plus, réduit à un objet démonté, alors que ce même démontage n'était qu'un préalable à sa propre restauration. La ténacité des différents acteurs de ce projet nous permet aujourd'hui, 11 ans après, de constater que plus aucun guide touristique ne peut renouveler cette confusion. Ce ne sont plus seulement 40, mais 170 personnes qui œuvrent quotidiennement sur ce chantier, avec des résultats que l'on peut considérer comme avérés. Trois des quatre façades sont consolidées, les pavillons portant des bas-reliefs sur le second étage sont restaurés et visibles, et la restitution de la grande statue du Bouddha dit couché sur la façade ouest est prévue pour la mi-2007. Il reste encore de grands travaux à réaliser, mais d'ores et déjà, le public de visiteurs a pu retrouver un accès partiel au premier étage du temple. C'est donc dans cette perspective de restitution finale que s'inscrit l'attribution du Grand Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac. Avec le soutien de la Fondation, nous envisageons de réaliser une campagne de fouilles archéologiques qui permettra de documenter l'emprise des deux grands bassins inscrits dans la partie orientale de l'enceinte du temple. Pourquoi ces bassins? Parce qu'ils sont importants à plus d'un titre. La présence de l'eau aux abords des temples ancoriens joue tout d'abord un rôle symbolique et rituel reconnu. Nous savons combien les maîtres d'œuvre ancoriens ont su intégrer cet élément dans leurs ambitieux programmes d'aménagement de l'espace du temple, de la ville et du territoire. Et nous savons également combien la construction de bassins est importante dans un pays soumis à l'alternance des moussons, de sorte que la restauration d'un temple ne peut pas être envisagée sans la restauration des bassins qui l'entouraient, dont le rôle de réceptacle des eaux de ruissellement est bien évidemment nécessaire et donc évident. Ce programme, à l'image du projet dans sa globalité, illustre la cohérence des interventions et, en quelque sorte, ce va-et-vient permanent entre les historiens, d'une part, les historiens de l'architecture, entre autres, et les méthodes propres à la conservation monumentale. Et c'est ici l'un des grands mérites de l'École française d'Extrême-Orient que d'avoir su maintenir cette idée selon laquelle la recherche et les disciplines de l'histoire ne peuvent être que proches et, pour ainsi dire, fondues dans les disciplines de la conservation monumentale, comme c'est le cas sur ce chantier particulier. Je terminerai en renouvelant mes remerciements. En récompensant le projet Bapone, les honneurs liés à la remise du Grand Prix de la Fondation du Prince Louis de Polignac se doivent d'être partagés par l'ensemble des institutions, hommes et femmes, qui croient en ce projet. En attribuant ce soutien, la Fondation se met aux côtés de l'École française d'Extrême-Orient, du ministère des Affaires étrangères et de l'autorité nationale Apsara en charge du Pardon Corps. En attribuant cette récompense, la Fondation du Prince Louis de Polignac honore aussi et surtout le travail de nos 170 collaborateurs cambodgiens, architectes, archéologues, maçons, tailleurs de pierre, au nom desquels je m'exprime seul ce soir. Bien entendu, il m'est impossible de citer nommément le nombre considérable de gens vers qui vont nos remerciements. Mais tous s'accordent avec moi pour souligner l'importance d'un homme dans le processus de résolution de ce projet unique. Je veux parler, comme l'a cité M. le secrétaire perpétuel, de mon maître et ami Jacques Dumarcé, ici présent, qui fut l'architecte de ce projet aux côtés de Bernard-Philippe Grolier jusqu'en 1970, dont l'érudition, l'enthousiasme et la ténacité ont été les trois sésames qui ont permis de reprendre la restauration du Bapone en 1995. C'est en fait la rencontre de cette érudition et du savoir-faire des artisans cambodgiens qui a permis la renaissance et la réussite de ce projet. Au nom de tous ces acteurs du projet, permettez-moi, Monseigneur, Altesse, Messieurs les secrétaires perpétuels, Messieurs les chanceliers, de vous renouveler mes sincères remerciements et de vous assurer de notre profonde reconnaissance pour l'attribution de ce prix. Merci.
Vous venez d'entendre la remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac 2006 qui s'est déroulée dans les salons de l'hôtel de Crillon le vendredi 10 novembre 2006.